Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au Grand Théâtre, qui est un lieu donc, dans lequel la librairie Mola organise de temps en temps des rencontres avec des auteurs, pas très souvent, mais de temps en temps. C'est dire, donc, Alain Kelavi-Léger, l'honneur qui vous est fait, l'honneur qui est fait à Lottie, donc de que l'on puissions parler de lui dans cette belle salle du Grand Théâtre, au cœur de Bordeaux. Bordeaux où il a d'ailleurs, où Pierre Lottie avait évidemment, en tant qu'officier de marine, évidemment, dû relâcher de temps en temps. Alors, Alain Kelavi-Léger, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes le grand spécialiste de Pierre Lottie. Voilà, vous venez de me glisser dans le creux de l'oreille que le premier papier que vous aviez fait sur Pierre Lottie, c'était dans mon journal, dans Sud-Ouest, en 1974, dans l'édition Rochefortez. Voilà, donc vous voyez, donc on fête le 50e anniversaire du premier papier d'Alain Kelavi-Léger sur Pierre Lottie. Voilà, donc c'est un autre anniversaire.
Ça ne me rajeunit pas.
L'autre anniversaire, c'est évidemment le centenaire de la mort de Lottie en 1923. Donc on a passé 23, mais enfin, toute l'année dernière a été un festival donc de manifestations autour de Lottie. Le seul regret qu'on peut avoir, donc, comme nous en parlions à l'instant, c'est de ne pas avoir pu rouvrir la maison de Pierre Lottie à Rochefort. Ce n'est que partie remise, puisque la réouverture de la maison aura lieu donc au printemps 2025. Donc encore un peu de patience. En revanche, évidemment, les parutions autour de Pierre Lottie sont extrêmement nombreuses. Nous avons donc l'occasion ce soir de parler de trois livres. Ce livre-là, donc « Mon mal m'enchante », qui était la devise de Pierre Lottie. Donc ce sont les lettres, un choix de lettres, un choix très abondant, il y en a plusieurs centaines de pages, qui donc couvre la période de 1866 à 1906, donc sur 40 années. Voilà, donc ce sont des lettres à des destinataires extrêmement variés. Donc Alain Kelavi-Léger va commenter un peu les destinataires et nous dire toute la richesse de ce livre. Et puis deux autres petits bouquins. Alors c'est donc, ce sont deux livres, alors c'est le journal intime de Lottie cette fois. Alors c'est pas nouveau, puisque le journal intime de Lottie, il est déjà paru dans les années, à la fin des années 90, donc à la table ronde. Mais cette fois, c'est une nouvelle édition dans la collection Vermillon, la petite Vermillon, qui est la collection de poche de la table ronde. Voilà. Donc ce sont, alors celui qui s'appelle Cette éternelle nostalgie, qui est le premier, le plus gros, hein, qui couvre la période 1878-1911. Et puis le deuxième, alors qui couvre exclusivement la guerre de 14, donc 1914-1918, avec à la fois le journal intime, mais aussi des extraits des livres que Lottie a tirés de ce journal intime. Et on verra d'ailleurs à quel point, donc, entre les romans de Lottie, les livres de Lottie publiés, et puis toute cette littérature de l'intime dont on va parler, quelles sont les passerelles, les interconnexions permanentes, voilà, entre ces différents genres. Voilà. Et alors je signale aussi que Alain Kelavi-Léger n'est pas resté les deux pieds dans le même sabot pendant ces derniers temps, puisque donc il y a une biographie de Lottie qui est parue en 2019, qui s'appelle Pierre Lottie, une vie de roman. Donc ça, c'est chez Kalman Levy, donc c'est il y a 4 ans. Il a également publié l'année dernière un livre original sur le frère de Pierre Lottie, qui s'appelait Gustave, qui était également un marin, un chirurgien de marine, voilà, et qui est mort à l'âge de 29 ou 30 ans, ce qui évidemment est un des grands drames de la vie de Lottie, et en même temps, évidemment, qui a été pour beaucoup dans sa vocation, en tout cas l'affirmation de sa vocation, puisqu'il a marché vogué sur les traces de ce grand frère. Voilà. Et puis, il y a aussi ce petit bouquin que j'ai apporté. Il n'est pas sur la table dehors, c'est dommage, mais vous pouvez vous le procurer quand même. C'est Actes Sud, donc, qui a publié une anthologie qui s'appelle Le Marabout, la Perruche et le Singe. Voilà, un tour du monde animalier. Ce sont des textes que Pierre Lottie a consacrés aux animaux. Hein, c'était une des caractéristiques de Pierre Lottie. Il en avait énormément, mais donc voilà aussi cet amour des animaux et cette capacité donc à les faire revivre par l'écriture. Voilà. Alors j'ai trop parlé, Alain Kelavi-Léger. Donc vous êtes agrégé d'histoire, vous êtes docteur en lettres. Vous travaillez étroitement avec un homme qui s'appelle Bruno Versier, qui n'est pas là ce soir, mais qui est un peu âgé aujourd'hui, qui vit à Paris et qui est un historien de la littérature, Bruno Versier, avec lequel vous avez énormément travaillé depuis très longtemps pour l'établissement de tous ces textes de Lottie, lettres, journal intime, et évidemment, et préface et commentaires de cette œuvre énorme, hein, voilà, dont on va, que nous, qu'on ne fera qu'effleurer ce soir. Voilà. Donc Alain Quellavilléger, donc à vous la parole. Peut-être ma première question, c'est peut-être un commentaire sur ce genre de l'intime, ce genre des lettres, ce genre de la correspondance et du journal intime qui est une partie immergée, mais très très importante de l'œuvre de Loti.
Oui, d'abord bonsoir et merci à la librairie Imola de m'avoir invité dans un lieu prestigieux. Je ne sais pas si Loti est venu, mais peut-être. Merci à Christophe Lucet de bien vouloir s'entretenir avec moi et merci à vous. Donc, oui, 2023, c'était l'année du centenaire donc de la mort de Pierre Loti. Elle a généré forcément beaucoup d'actualités, de livres, d'expositions, d'événementiels, de colloques, etc. Bon, cet événementiel n'est pas terminé. On le poursuit en 2024 et jusqu'à la réouverture de la maison en 2025. Donc, et puis, de toute façon, date ou pas date, Loti, il est dans l'actualité et il ne va pas disparaître de sitôt. Alors, pour répondre à la question, j'évite toujours les termes grandiloquents ou je ne cherche pas à dire Loti est un grand écrivain ou son œuvre est la plus importante de toutes. Bon, ça, ce n'est pas très intéressant en soi. C'est de saisir plutôt son originalité et éventuellement sa modernité. Alors, modernité, pareil, c'est un mot creux à bien des égards. Mais pourquoi il nous parle encore aujourd'hui? Pourquoi on est là ce soir? L'originalité, effectivement, c'est une œuvre qui... Loti n'est pas un romancier, je vais vous décevoir tout de suite. Il a écrit, on va dire, 8 romans sur une cinquantaine de bouquins. Et quand il écrit des romans, il souffre beaucoup. Il fait des efforts. Hein, il essaie de faire un bouquin comme on attend qu'on fasse un roman. Voilà. Bon, mais sauf que Loti, ce n'est pas Maupassant, ce n'est pas Zola, etc. Et d'une certaine façon, c'est quelqu'un qui manque d'imagination, sans que ce soit péjoratif. Ce que je dis là, simplement, Loti, il est beaucoup dans l'autofiction, ce qu'on appelle aujourd'hui l'autofiction. C'est-à-dire qu'il brasse sa vie pour en faire quelque chose qui peut être un roman ou qui peut être autre. Et effectivement, à la source de tout, il y a le journal intime. Il y a le journal intime et les lettres. Justement. Loti est né dans un... Alors d'abord, il s'appelait Julien Viau, on va dire Loti pour faire simple, mais c'est son pseudonyme. Il est né
c'est
dans...
une petite fleur du Pacifique. Hein.
Oui, les Tahitiens se battent entre eux pour savoir si c'est une rose ou un laurier rose, mais enfin, en tout cas, c'est un mot tahitien. Mais la lettre L n'existe pas en tahitien, c'est un R roulé, Roti. Mais bon, s'il avait pris le R, ça faisait Roti, c'était pas génial. Donc il a opté pour le L, c'est plus liquide, comme pseudonyme. Et c'est un surnom qu'on lui avait donné quand il était jeune marin à Tahiti en 72, entre autres sur les traces de son grand frangin. Et très tôt, effectivement, il est né dans une famille où tout le monde est lettré. C'est une petite bourgeoisie très, très cultivée, en partie ruinée, mais on s'écrit beaucoup. Beaucoup de lettres s'échangent dans tous les sens. D'autres le faisaient, d'autres familles le faisaient, évidemment. Sauf que toutes les familles n'ont pas eu au bout des écrivains. Et ces lettres, on les a encore beaucoup. On conserve tout. Voilà. Et Loti lui-même, évidemment, il est fétichiste de beaucoup de choses. Et tous ces écrits qu'il a reçus, que lui-même a pu envoyer à sa sœur ou à des amis, il va ensuite s'en servir pour... Alors, dans un premier temps, tenir un journal intime, et dans un second temps, évidemment, devenir un écrivain qui va produire de la littérature. Et ce journal intime, ça commence très tôt, c'est-à-dire que dès qu'il est ado, dès qu'il est 12-15 ans, il écrit déjà, d'ailleurs très bien, mais il écrit pour lui-même, il veut garder, bon, il y a une obsession du temps qui passe très, très, très prématurément, et le seul moyen de trouver, de se sauvegarder, de sauver ce temps qui passe, ou les choses qui ont été vécues, c'est de les écrire. Donc il tient un journal, alors dans un premier temps, il veut vraiment que ce soit intime, ça va être avec une cryptographie qu'il invente, c'est une sorte de hiéroglyphe, hein, et tout ça est enroulé dans un papier bien attaché et tout. Bon,
donc c'est pas censé être lu par quiconque, et c'est même il y a même une clé, enfin
il y a toute une mise au secret. Ça fait partie d'une posture. À la fin de sa vie, Loti va tout faire pour que personne ne lise son journal, mais tout faire pour qu'on le garde précieusement. Donc lorsque nous le publions, justement, on n'outrepasse pas là-dessus ses vœux par rapport à sa tombe, c'est différent. Il avait dit en gros, pouvez brûler mon journal, mais il a surtout rien fait pour qu'on le brûle. Non, un journal, il s'adresse toujours à quelqu'un et pas toujours qu'à soi-même. Et donc, il s'adresse à soi-même par rapport à plus tard, en disant je le relirai ou je me reparlerai voilà, à moi-même de ce que j'ai vécu il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Il le garde aussi parce que c'est sa source pour écrire éventuellement les quelques romans qu'il a écrits. C'est sa source aussi pour les récits de voyage qu'il a écrits. Et puis, j'allais dire, c'est sa source de vie.
On peut prendre tout de suite un exemple. Mon frère Yves, par exemple, donc ce livre de 1880, c'est largement extrait de ces lettres, largement extrait de ce journal, puisque c'est vraiment la transposition de cette amitié très très forte qu'il a eue avec un marin de son équipage, hein, Pierre Lecor.
Pierre Lecor, ça c'est l'affaire bretonne. En 83, mon frère Yves, Alors, les premiers romans, et même le dernier, Les Désenchantés, sont effectivement nourris de journaux intimes et de lettres, hein, envoyées, reçues. Il y a toute une... Alors, le roman épistolaire, hein, il n'a pas inventé de genre, mais lui, il s'en sert pas mal, que ce soit dans le premier roman qui s'appelait Aziade, qui se passe en Turquie, que ce soit dans le roman qui se passe à Tahiti, qui s'appelle Le mariage de Loti, mais Loti, là, c'était juste un personnage. Le nom d'écrivain n'existait pas encore, que ce soit à la fin de sa vie dans Les Désenchantés, retour à la Turquie. Les lettres sont beaucoup utilisées, hein, comme élément de la trame narrative. Et puis, pour mon frère Yves, elles le sont aussi, et c'est très, très nourri, là, du journal intime. Effectivement, cette amitié qu'il a, lui, en tant que, évidemment, officier supérieur avec un jeune marin, Pierre Lecor, et qui écrit d'ailleurs en faisant... mon frère Yves, alors bon, ça va prêter lieu à beaucoup de gloses et de commentaires sur l'existence de ses frères, hein, dans la vie de Loti, mais en même temps c'est un roman très naturaliste puisque c'est un roman sur l'alcool, sur l'alcoolisme. Loti qui, lorsqu'il sera reçu à l'Académie française, dans son discours de réception aura une longue tirade pour critiquer le naturalisme et pour critiquer Zola, se rend pas compte que lui, il a écrit un roman naturaliste qui est Mon frère Yves. Il a fait du Zola sans le savoir.
Jeune marin, donc à la fois porté sur la boisson, ce qui dans la marine donc était peut-être relativement courant, mais enfin.
Non, je ferai pas un procès d'intention tel.
Et puis analphabète aussi. Hein,
Oui, mais le personnage, Loti. Alors je dis toujours Loti, mais là à ce moment-là, il est Julien Viau, c'est l'officier de marine. Dans sa vie privée et dans sa vie de militaire, Loti s'entoure volontiers de gens, j'allais dire de milieu modeste, de gens simples, peu cultivés ou peu alphabétisés, mais qui ont des fortes personnalités. Bon, en même temps, il aime bien être un petit peu le leader, hein, d'un groupe et être admiré, mais il établit avec eux des relations qui lui semblent en tout cas très saines et très très naturelles. Loti aime pas la bourgeoisie, il la fréquente beaucoup, il en fait partie. Il trouve que c'est très mondain dans l'aristocratie, mais il adore y aller. Mais il y a des codes, il y a tout un des usages où il n'est pas complètement à son aise. Et d'une certaine façon, Loti reste quand même, on a dit parfois, une sorte de primitif, de sauvage. Et donc, il est assez à l'aise avec le monde paysan, le monde ouvrier, le monde des marins, des matelots, etc. Il en parle très bien. Bon, en même temps... j'allais dire, il passe d'un milieu à l'autre très facilement. Et c'est peut-être ça aussi l'originalité.
Ce côté caméléon de Loti.
Voilà, la formule est juste. Il a une capacité assez, assez épatante, et ça, évidemment, il va le répercuter dans sa littérature, à passer d'un milieu à un autre. Alors, c'est à la fois... si on lit son journal intime, justement, on se rend compte que, je sais pas, dans la même journée, il va aller faire la fête sur les barrières avec des matelots, tout le monde va être ivre et se battre. Et puis, le soir, il va se retrouver dans un très beau salon avec des personnalités de l'aristocratie parisienne. Entre-temps, il aura pris le temps de se changer, évidemment. Mais voilà, il va passer d'un milieu à l'autre avec un grand naturel. Le côté caméléon de Loti est peut-être aussi la recherche d'une identité qui n'est jamais complètement assouvie. J'allais dire que ce qui fait... Là encore, parce que j'essaie de raisonner en termes d'originalité, Loti est quand même quelqu'un qui est multiple, qui en a conscience, mais qui ne sait jamais où il est, et qui voudrait ne pas avoir qu'une vie. On dirait que c'est peut-être banal, mais il essaie, lui, d'aller au bout de cette idée, d'avoir plusieurs vies, et donc plusieurs identités. Donc il y a Julien Viau, il y a Pierre Loti, et puis en Turquie, il est quelqu'un d'autre, et puis il va se costumer, vivre à la japonaise, vivre à la tahitienne, et partout, en essayant d'être à l'intérieur de cette vie, de la vivre pleinement. C'est pas juste kitsch, c'est pas juste du déguisement. Hein. C'est de la recherche d'identité. Et au bout du compte, c'est presque une méthode du point de vue de la façon d'analyser une population, d'être dans l'insertion. C'est presque une méthode d'ethnographie. Hein. C'est être dedans, vivre avec. Et c'est aussi ce qui fait l'originalité de ces romans ou de ces récits de voyage. Il y a énormément d'empathie dans l'œuvre de Loti. Il est énormément au milieu des gens. Et alors, il n'arrive jamais complètement à être l'autre, évidemment. C'est le grand rêve, être l'autre. Mais il y a ce pari. Voilà. Et l'écriture, finalement, va au bout de ce pari. Elle essaie.
Alors, ces trois livres sont signés Pierre Loti, donc on aurait pu imaginer que vous auriez mis aussi Julien Viaud en évidence, puisque au fond c'est Julien Viaud là qui nous parle. On est à la frontière un peu des deux, de son identité, de son état civil, et puis de son existence littéraire. Mais précisément, vous venez d'expliquer à quel point les deux se nourrissaient l'un et l'autre. Hein, c'est vraiment clair.
Il est évident que Pierre Loti a essayé de, non pas de faire disparaître Julien Viaud, mais de donner à Julien Viaud justement plusieurs vies, plusieurs autres vies. Le pseudonyme avait une raison pratique au départ, c'est qu'il est officier de marine et qu'il fallait une autorisation pour publier. Et donc le meilleur moyen de contourner l'autorisation, c'était peut-être publier sous un autre nom. Et puis, ça lui a valu quand même quelques ennuis. Hein, avec.
D'ailleurs, vous pouvez raconter pour Asiadé, c'est assez compliqué, parce qu'il était le premier en Irlandais.
C'est anonyme.
Il a 20, quel âge il a ? Il a 28 ans.
Quand le livre paraît, il a 29, mais il l'écrit avant, bien sûr.
Et alors, en fait, il y a toute une histoire un peu pour justifier l'apparition de ce roman, sans que ça soit attribué à Julien Viaud.
Ah ben, le premier roman, donc Asiadé, qui évidemment aujourd'hui porte le nom de Pierre Loti, mais à la première édition, en janvier 79, n'est pas signé, c'est anonyme. Et le roman, évidemment, d'ailleurs, met en scène un héros qui est un marin anglais, pas français. Donc il faut brouiller un peu les pistes. Peut-être aussi parce que ce marin ne se comporte pas toujours très bien. Et à la fin, il plaque la jeune femme et il s'en va en la laissant mourir tranquillement. Et donc, autant que quelque chose qui est mal, ça se fasse faire par un Anglais. Parce que Loti est un marin français. Hein.
Donc, et c'est vrai qu'à l'époque, l'opposition entre l'Empire britannique et l'Empire français est très forte.
Donc le méchant, c'est l'anglais. Mais non, c'est, le premier roman, d'ailleurs, Asiadé, est un roman qui est un peu passé inaperçu, mais forcément un bouquin en plus qui n'a pas de nom d'auteur, etc., qui racontait une histoire d'amour à laquelle les gens ne croyaient pas. Cette histoire avec un chrétien et une jeune femme musulmane à Istanbul, enfin Constantinople, tout cela, ça c'était plein d'interdits. Enfin, la première partie se passe même à Thessalonique. C'était dans l'Empire ottoman à ce moment-là. Cette histoire semblait impossible. Donc, on prend ça vraiment comme un roman, pour le coup. Et donc, le livre n'est pas tellement remarqué. Alors qu'aujourd'hui, je pense un auberge aujourd'hui qui est ancien, même Roland Barthes, dans les années 70, a dit Asiadé, c'est l'ancêtre du nouveau roman. Bon, à ce moment-là, on n'a pas aperçu que ce bouquin, effectivement, était un roman mal foutu. C'est un très mauvais roman. Je reviens à la question, Loti, c'est pas écrire des romans. Et Asiadé, ce qui en fait l'intérêt aujourd'hui, c'est que c'est justement un roman mal foutu. C'est-à-dire c'est complètement décousu, c'est plein de scénettes, ça passe d'un sujet à un autre, c'est un petit kaléidoscope. Et c'est ce qui en fait, effectivement, la beauté, à la fois poétique, ethnographique par moments. Et d'une certaine façon, d'ailleurs, le personnage central n'est pas la jeune femme.
Vous voulez dire que le fait de voir les coutures du roman, finalement, ça le valorise, le roman. Il montre le roman en train de se faire.
Il n'a même pas de couture, il est décousu. Hein. Donc, justement, le livre est un livre qui est un livre, j'allais dire mal fait, mais ça, c'est un jugement de valeur par rapport à la notion de roman qui doit être bien construit et balisé. Non, il a fait un roman qui est à la limite du journal intime, hein, qui est une chronique avec des scénettes, qui est. Parfois, on a dit c'est un peu. Bon, il a une culture de la Bible, il y a beaucoup de séquences comme ça, des moments où on. C'est des moments où d'ailleurs les personnages n'apparaissent pas, parce qu'on parle de la ville, on parle de quelqu'un d'autre. C'est une sorte de. Parfois de reportage. C'est un portrait de la ville. Bon. Et donc, c'est à bien des égards un livre qui ne ressemble à rien. Mais justement, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on trouve qu'il a une certaine personnalité, ce bouquin.
Alors Julien Viaud, donc l'officier de marine, donc il a tout de l'officier de marine, le goût de l'exotisme, le goût du voyage, l'envie d'embarquer toujours, de partir au loin, de réaliser ses rêves. Alors c'est très fort chez lui. Et en même temps c'est quelqu'un qui est un homme qui se veut être un homme libre, qui veut réaliser son destin, qui ne veut pas avoir d'attache. Alors il y a notamment des choses amusantes en fait dans les lettres de Loti. Il a tout un échange épistolaire avec une femme à qui on voudrait le marier et au fond il voudrait bien mais il veut pas, elle se jette dans ses bras, il la repousse un peu, pas trop. C'est assez intéressant parce qu'on a un Loti à la fois, on voit l'homme à femme, l'homme qui est l'homme très attirant finalement, avec ce prestige de l'uniforme et puis ce côté séduisant très certainement, et puis en même temps l'homme qui n'a pas envie de s'engager, hein. Sur ce terrain-là. Hein, il va rester un grand célibataire, s'il va se marier.
Il a fini par s'engager, j'allais le dire, quand il a 36 ans, avec une bordelaise. Le mariage a eu lieu ici, hein, en 1886 avec Jeanne, avec Blanche Franc de Ferrières. Il y a cette idée, bah, homme libre, toujours tu chériras la mer. C'est évident que Loti répond à cette définition. La liberté, elle a toujours ses limites. Il a sa culture, il a sa famille, il a sa vieille maman à Rochefort, il a ses principes. Et ses personnages n'est pas, il est transgressif et puis en même temps, il est bien, bien souvent parfois normatif tout de même. Hein. Il n'est pas complètement révolutionnaire. C'est pas un personnage complètement hors sol, loin de là. Mais il y a effectivement une aspiration, je le disais d'abord, à vivre plusieurs vies et à remplir sa vie. Il y avait une formule que je cite toujours du critique Hubert Juin qui disait « Pierre Loti, c'est à la fois un gouffre et un goinfre ». C'est-à-dire qu'il y a effectivement le côté angoissé d'un personnage tragique, le côté romantique, etc. Tu chériras la mère, mais la mère, ça peut être elle, apostrophe A-M-E-R, Loti étant préoccupé par énormément de sujets qui le traverse comme ça, qui le tire vers l'obsession de la mort. Et donc tout ça donne une urgence à vivre et qui va vers le côté goinfre. Loti est dans un appétit de la volonté de multiplier les expériences de vie de toutes sortes.
Mais est-ce que ce n'est pas d'ailleurs parfois une fuite en avant, c'est-à-dire une façon de conjurer évidemment la peur de la mort et la peur du néant, hein ?
Alors, il faut rappeler que Loti vient d'un milieu protestant avec une culture religieuse très forte. On lisait la Bible tous les soirs à la maison, etc. Mais lui a perdu la foi quand il est ado. Sauf que c'est ce que dira plus tard Claude Farrère, il est athée mais désespéré de l'être. Et donc, évidemment, être athée, ce n'est pas confortable parce que finalement, il n'y a pas de réponse pour après la mort et tout le reste. Et donc, c'est un problème pour lui. D'ailleurs, il va s'intéresser à toutes les religions partout où il va en se disant peut-être qu'eux, ils ont une solution pour moi. Et puis, ça ne passe pas, ça ne marche pas. Mais cette angoisse existentielle, effectivement, elle le fait. Est-ce que c'est une fuite ? Je pense que c'est en tout cas quelque chose qui lui donne une énergie à vivre en tout cas, et aussi une urgence à vivre les choses. Le personnage est en même temps dans l'urgence, c'est toujours dans la lenteur, parce que c'est un grand contemplatif aussi. Mais ça, c'est aussi l'avantage du marin qui peut prendre le temps de regarder le ciel le soir et de s'arrêter longtemps quelque part. Et dans les voyages qu'il fait, ce sont des voyages qui sont tout de même, ne serait-ce que par les contraintes de déplacement d'époque, des voyages lents. Parce que ce soit le bateau, que ce soit le cheval, que ce soit sur des charrettes, sur des dromadaires ou autres, le voyage prend beaucoup de temps. Loti fait des voyages absolument considérables. Donc il y a une sorte d'apologie aussi de la lenteur, mais urgence à vivre.
Oui, sur la lenteur, justement, j'ai relevé ce petit passage. C'est une lettre à Alphonse Daudet qui l'écrit en mer. Alphonse Daudet, donc le célèbre Alphonse Daudet des contes des lettres de Montmoulin. Il est à bord, il y a plein de choses à faire, la vie maritime, la vie d'officier, donc, est pleine d'obligations. Et puis là, il écrit à Daudet en lui disant: il est 9h du soir, renfermé dans ma chambre de bord, je jouis enfin de cette quiétude égoïste que les marins seuls connaissent, celle de l'officier qui a fini son quart. J'ai la nuit franche, il appelle ça la nuit franche, comme cela s'appelle en marine, plus de service avant demain midi, autant dire que je ne fais plus partie du monde qui m'entoure. On entend à fond de cale le bruit sourd de la machine qui tourne en haut, les mâts qui grincent au roulis, au dehors le bourdonnement triste du grand vent qui se lève, le mauvais temps s'annonce, mais cela m'est égal. Le navire peut cette nuit naviguer la quille en l'air, si bon lui semble, sans que je m'en occupe en aucune façon. J'ai la nuit franche et cela ne me regarde plus. Et là, il a le temps d'écrire ses lettres.
Et ses livres. Et son journal.
Et son journal.
Voilà. D'abord, même dans un extrait comme cela, on se rend compte, enfin, c'est mon point de vue, que c'est très bien écrit. Ce sont des lettres spontanées, ce sont des lettres privées, évidemment, mais déjà, c'est dans les lettres, c'est ce qui est intéressant, c'est du très bon Loti, si vous voulez. La mer, il en a remarquablement parlé, enfin, les deux, la mer MER et la mer MERE aussi. Mais l'océan, c'est pas Hugo. Lui, la mer, il la vit de l'intérieur, puisqu'il est officier de marine. Il sait très bien, si vous avez lu Pêcheur d'Islande, etc., il y a des scènes de tempête.
Il dit d'ailleurs à Marie Roberti, vous parlez de la tempête, mais vous savez pas ce que c'est. Hein. Moi, je peux vous dire ce que c'est, la tempête. Là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui va.
Marie Roberti, c'était la dame qu'on voulait lui faire
épouser. Ah oui, la fameuse dame qu'on voulait lui faire épouser.
Il avait un peu tort parce qu'elle était très riche, ça lui aurait arrangé un peu ses fins de mois. Mais bon, malgré tout, il ne cède pas. Mais il ne cède pas, les lettres sont intéressantes parce qu'il est parfois presque un peu cynique en disant: mais ma pauvre dame, bon, on peut s'amuser un petit peu de temps en temps tous les deux, mais moi, je n'ai pas d'amour à vous proposer. Choisissez un vrai mari. Enfin, elle était veuve, je trouvais un autre mari. Mais moi, je ne suis pas l'homme de la situation. Et c'est vrai que Loti, quand même, est d'abord dans. Je ne sais pas si c'est seulement un séducteur, mais en tout cas, visiblement, les dames s'intéressaient à lui. Mais il y a effectivement cette obsession de la liberté. Pour l'instant, l'idée de se marier, c'est pour lui, c'est déjà la première étape de la mort, quoi. Il le perçoit comme ça, on va m'enfermer dans un truc. Alors que, curieusement, lui, il passe son temps à s'enfermer. Il vit avec sa vieille maman très longtemps, il va garder la maison familiale. Il est très attaché à ses proches, à sa sœur, à ses souvenirs, à son passé, de façon vraiment absolument obsessionnelle. Il garde tout, l'autiste, un fétichiste. Donc, il peut avoir l'impression de s'arracher à tout cela, alors qu'en même temps, sans cesse, il y revient complètement. D'ailleurs, quand il voyage, quand il est à Rochefort, il se dit « Je suis là à perdre mon temps, alors que je pourrais être en Indochine avec mes camarades ou bien au soleil en Algérie. » Et puis, quand il est en Indochine, il dit « Ah, je ne vais même pas voir les roses pousser dans le jardin de Rochefort. » C'est-à-dire qu'il est vrai.
Il n'est jamais content, Loti. Hein.
Alors, disons qu'il a un rêve d'ubiquité, ce qui permettrait aussi de vivre plusieurs vies. Jamais content, ce n'est pas faux. Il y a une insatisfaction perpétuelle, ça revient au goinfre et au gouffre. C'est-à-dire qu'effectivement, même lorsqu'il est, on va dire sur le papier, toutes les raisons d'être heureux parce qu'il est riche, parce qu'il est amoureux, parce qu'il a tout ce qu'il faut pour... finalement, il dit oui, mais tout ça pour rien, demain on va mourir, donc c'est foutu. Et il y a quelque chose qui fait que le temps présent ne peut pas être satisfaisant, parce qu'on passe tout de suite à l'étape suivante. Et donc il faut créer à nouveau des fêtes ou des rencontres, des voyages pour essayer de s'exporter, j'allais dire, ou de s'exfiltrer dans d'autres vies. Donc jamais content, oui, c'est un peu ça, mais avec quelque chose de plus riche.
Alors dans ces lettres, donc ces lettres d'ici et d'ailleurs, ce qui est frappant, c'est la variété des correspondants. C'est-à-dire qu'alors il y a le noyau familial, hein, il y a sa mère bien sûr, très très important, sa nièce qu'il appelle Ninette. Voilà, à qui il écrit des très très jolies lettres. Et d'ailleurs il y en a une où il lui raconte une expédition en Indochine dans une sorte de souterrain plein de statues. C'est assez extraordinaire. Il lui dit je vais te raconter une histoire, je voudrais vraiment que tu sois avec moi, et comme tu n'es pas là, je vais te montrer. Et donc là, il montre vraiment toute sa capacité de description. Et puis alors, il y a la famille, il y a les amis. Bon, on a parlé de Pierre Lecor, il y a aussi tous ses amis marins, il y a toutes sortes de proches comme ça. Et puis alors, il y a les relations de Loti. Quand il commence à être un peu connu, évidemment, il y a ses protecteurs, il y a Juliette Adam, il y a donc Alphonse Daudet, voilà, il y a toutes sortes de gens importants qui... voilà, donc il y a comme des cercles concentriques dans ses lettres. Et en fait, on passe de l'un à l'autre, et c'est assez étonnant.
Oui, ce qu'on voulait, en réunissant ces lettres avec Bruno Versier, c'était... Alors forcément, c'est un choix de lettres, parce qu'il n'est pas possible de publier... on en a beaucoup, Loti conservait soit les copies, soit il a les lettres reçues, etc. Donc on avait, j'allais dire, que l'embarras du choix, et beaucoup l'embarras, tout court. Mais l'idée, c'était tout de même, sur 40 années, de restituer effectivement cette diversité. Et puis... Les lettres ont un peu fonction de journal intime. Et par moments même, elles comblent certains vides du journal intime. Par exemple, dans le journal intime, on ne trouve rien sur l'épisode 1870, quand il est sur un navire pendant la guerre de 70, et qu'il y a un navire français là, qui surveille les côtes allemandes dans la Baltique. Dans le journal, il n'y a plus rien. Bon. Or, là, il y a plusieurs lettres tout à fait passionnantes.
Il est tout jeune. Voilà.
Et là, il y a des lettres où il raconte vraiment sa vie à bord et ce qui se passe avec les Allemands, etc. Et ça, c'est même du reportage.
Ça, donc, c'est des lettres que vous avez découvertes quand
Ce sont des lettres.
Vous les connaissez depuis toujours ou...
Pas toujours depuis toujours, mais parfois depuis longtemps. Mais effectivement, et puis certaines, on les a découvertes plus récemment parce qu'il y a des lettres qui émergent dans les ventes publiques, dans des bibliothèques qui les ont achetées, etc. Mais effectivement, bon, certains documents, on les connaissait. Il fallait trouver le moment pour les publier et les mettre en évidence, justement, dans un récit. Parce que là, elles font récit. Il y a la diversité de ces lettres, mais en même temps, elles racontent une histoire, et c'est un journal intime.
Déjà, il y a la trame chronologique de ces voyages, de ces événements de sa vie.
C'était ce que vous avez dit, c'est-à-dire à la fois, il y a la relation familiale, où on s'écrit vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. C'est une famille où, avec les secrets...
Heureusement, il n'y a pas le téléphone, donc tout reste.
Il n'y a pas de texto non plus, c'est-à-dire qu'effectivement, on raconte beaucoup, on écrit 3 pages, 4 pages, alors qu'on vient juste d'aller voir la mère dans l'île d'Oléron, mais ça donne des récits. La poste, ça fonctionnait 2 ou 3 fois par jour. Les lettres, elles arrivaient très vite à la maison. Donc le courrier avait vraiment une fonction de proximité qu'on ne soupçonne pas toujours. Et après, il y a les lettres, bien sûr, au milieu maritime. Il y a des officiers supérieurs avec lesquels il écrit des lettres plus étoffées, plus poussées intellectuellement que celles avec Pierre Lecor. Et puis, il y a bien sûr le milieu des lettres. Loti, il est lettré à tout point de vue. C'est un homme de lettres. Double sens de mots. Alors dans le milieu des... Loti n'a pas été l'homme des chapelles, c'est pas un parisien, il déteste Paris. Et donc on ne peut pas dire qu'il ait fréquenté plus qu'il ne faut les salons et les milieux littéraires, mais tout de même, ça fait partie des stratégies et des réseaux. Et son éditeur lui dit, mon petit bonhomme, il faut aller là. Et donc, il fréquente Daudet, vous l'avez dit, il fréquente Zola, il fréquente Edmond Goncourt.
Il a dû faire un peu campagne pour son élection à l'Académie française.
Il a bien fallu qu'il le fasse, mais ils s'en sont occupés, Daudet et Goncourt, parce qu'ils ont en gros poussé Loti pour qu'il fasse barrage à Émile Zola. Et donc, ce que je raconte dans le livre sur l'histoire de son élection à l'Académie française, où là, il y a toute une machinerie qui s'est mise en place, parce que... Toute une partie des milieux littéraires les plus conservateurs ne voulaient surtout pas que Zola soit un jour élu à l'Académie française. Et d'ailleurs, ils y ont réussi. Il a dû se présenter 12 ou 13 fois, ça n'a pas marché. Et donc, une de ces fois-là, on a mis dans ses pattes la candidature de Loti. Alors, c'était le jeune gars, comme ça, quarantaine, marin, exotique, qui était écrivant autre chose que du naturalisme. Enfin, ils l'ont cru.
On connaissait déjà Asiadé, mon frère Yves.
Oui, qu'on connaissait à un moment où il est élu, il y a déjà eu Pêcheur d'Islande.
Pêcheur d'Islande, bien sûr, qui a été un immense succès. Hein.
Ah oui, ça c'est le best-seller de toute catégorie pour Loti. Et donc Loti va être élu contre Zola. Et le personnage, il est fringant, il est utilisé pour tout cela. Alors les milieux littéraires, il les fréquente. En étant en même temps un peu distant, parce qu'il est sur les bateaux, parce qu'il vit à Rochefort, parce que justement à Paris il y passe le moins de temps possible. Mais enfin bon, il aime ça aussi. Quand il fréquente, je sais pas, Alice de Monaco ou des gens comme ça, il était un peu amoureux. Mais enfin, il aime tout de même fréquenter les châteaux, les reines, pas tellement les rois, mais les reines. La reine Élisabeth de Roumanie. Loti aime bien tout le côté comme ça. Un peu théâtre de Podane, j'allais dire, mais il y a un décorum, il y a un conte de fées qu'il a quand il fréquente ces milieux-là qui le fascine beaucoup. Et donc, le personnage, c'est là où il est justement, à la fois, il va aller voir un domestique qui vient de devenir agriculteur et il va passer ou venir à Arcachon dans un parc à huîtres que gère un de ses anciens domestiques. Il est très à l'aise là-dedans, puis en même temps, il est parfaitement à l'aise pour à la cour de Roumanie ou ailleurs, ou à Monaco.
Et alors, vous avez parlé des lettres qu'il écrit, qu'il reçoit. Donc, à un moment donné, il est à Alger sur son bateau. Il écrit à Daudet. Et puis il dit, mais écrivez-moi poste restante à Alger. Parce que, combien de temps peut-il espérer recevoir une réponse de Daudet quand il le poste, quand il le donne ça au Vague-Mestre à 18h à la dernière levée? Ouais.
Dans le cas de l'Algérie, ça fonctionnait pas trop mal parce que ça arrivait à Marseille. Mais bon, après, effectivement, dès qu'il commence à circuler, qu'il faut passer le canal de Suez ou autre, qui n'était pas le canal à ce moment-là, si, en 69, le canal était là. Là, évidemment, quand il est en Indochine, bon, c'est 3 semaines hein, avant qu'une lettre arrive. Ces lettres, aujourd'hui, nous, on les lit bout à bout, évidemment. Il y a des grands silences entre chacune d'entre elles, forcément. Mais c'est ce qui fait aussi sa force, son absence. Hein. Il est loin et il en cultive un peu le mythe, en tout cas la posture, parce que voilà, il n'est pas dans les chapelles littéraires, il n'est pas dans les petitesses quotidiennes. Voilà. Il est un peu une sorte de héros à l'autre bout du monde. Et donc, ça fait partie de son image. Si on lit la presse de l'époque, il faut bien se rendre compte qu'au fur et à mesure de son succès littéraire, de sa célébrité, Loti est devenu un personnage people, on va parler moderne, un personnage qu'on suit. On voit dans le Figaro que Loti vient d'arriver à Constantinople ou qu'il est malade à Séhigon. Il a des lectrices, je ne vous dis pas le nombre, et des lecteurs. Il reçoit des centaines de lettres, évidemment, d'admiratrices absolument éperdues. Il est un personnage qui fascine donc les salons, mais qui fascine les milieux politiques, qui tout le monde essaie aussi de le récupérer, qui fascine plus ou moins parfois dans la marine. Ça, c'est un peu ambivalent. Mais c'est une célébrité et qui devient en quelque sorte mythique. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que ce type-là, il vit au bout du monde des aventures que personne n'a vécues.
On pourrait presque le comparer à Albert Londres, d'une certaine façon, non ?
Alors, c'est une bonne comparaison.
Même si Albert Londres est journaliste, il est mort. Enfin,
oui, et puis il en est mort. Mais ceci dit, je le compare plus volontiers peut-être à Kessel, j'aime bien.
Mais enfin, oui, Kessel,
dans la lignée, en tout cas, de ces grands reporters. On pourrait aller, si vous voulez, de Théophile Gautier, bon, à Albert Londres, hein, ça me va très bien. On a fait un volume justement avec Bruno Vercier chez Calman Lévy, où on a réuni là l'année dernière une anthologie de ses articles principaux dans la presse qui s'appelle Le Monde en passant. Et Loti est un remarquable auteur d'articles comme ça, de reportages. Alors, c'est pas du Albert Londres parce que Loti ne va pas aller fouiller, faire des trucs à scandale sur le bagne ou je ne sais quoi, mais il a eu des articles qui ont déplu. Quand il fait un reportage en 1883 sur le débarquement français en Annam et qu'il décrit les combats et leur violence. Et ça fait scandale en France.
Les pillages en particulier, les massacres.
Oui, et puis le massacre. Ça fait scandale en France et Jules Ferry n'a pas été content. On a ramené Loti au bercail par sanction disciplinaire. Il avait outrepassé son devoir de réserve. Donc il peut avoir des articles qui vont choquer et qui vont manœuvrer l'opinion. Pour autant, même à son corps défendant, Loti va se retrouver un peu emporté par une cause féministe, par exemple. Quand il écrit Les Désenchantés en 1906 sur la condition des femmes musulmanes, celle de Turquie, celle d'Istanbul, eh bien c'est un livre qui tout de même, alors que il a été un peu dépassé par son sujet sans doute, mais enfin c'est pas un imbécile, il sait ce qu'il fait. Et Les Désenchantés, c'est un livre qui est un livre polémique, qui est un livre politique, hein, c'est pas seulement du Loti, c'est pas seulement de Gentil, c'est pas seulement du Loukoum, hein. Il y a des textes qui sont les textes sur la guerre au Tonkin sont d'une violence, d'un réalisme tout à fait étonnant. Et dans les récits de voyage, il y a ça justement. C'est peut-être là où par moment il est plus proche de Théophile Gautier peut-être que d'Albert Londres, mais il a un sens de l'atmosphère, de la description, de l'empathie. Loti traverse, par exemple, il ne fait pas avancer sa carrière maritime en prenant un congé pour aller à Ceylan, en Inde, en Perse. Il s'arrête 8 mois, hein, il va faire un grand voyage de 8 mois. Et les récits qu'il publie, un s'appelle L'Inde sans les Anglais. Alors l'Inde, entre parenthèses, sans les Anglais. Ça voulait dire qu'il va voyager dans l'Inde des Indiens. Il n'y aura pas les British, mais quand même, quand il arrive à Pondichéry, où c'est quand même un peu colonial français, là, ça le choque un peu moins. Hein. Mais L'Inde sans les Anglais, c'est un texte magnifique. Il arrive à la fin à Bombay, il y a le choléra, tout ça, c'est dantesque. C'est du très grand récit de voyage. Hein. Lorsqu'il traverse la Perse ensuite, qui est un voyage pas confortable du tout, il fait pareil, un voyage en Terre Sainte dans des conditions très très compliquées. C'est pas un aventurier, c'est pas un casse-cou, mais quand même, il y a des voyages qui sont pas simples.
Je me rappelle notamment la traversée du désert, là, le texte sur le désert qui est magnifique. Il fait une méharée à travers le Sinaï, je crois. Et puis,
oui, la traversée du Sinaï, il voulait aller jusqu'à Petra, il a pas pu, il y avait la guerre, etc. C'est dommage, on aurait un beau texte sur Petra par Loti. Mais lorsqu'il traverse l'Iran, la Perse du sud au nord, donc c'est vraiment une grande transversale. Difficile. Si vous lisez ce texte, ça reste un des plus beaux textes écrits sur l'Iran, hein, sur les hauts plateaux, sur les villes. Loti, là, il est en admiration, il est dépassé. Il faut rappeler aussi que Loti est quand même fasciné par l'islam, donc dans ces pays-là, il est très à l'aise pour avoir aussi de l'empathie, même si. Justement, en Iran, il a été un peu coincé parce qu'il n'avait pas peut-être bien vu la différence entre les chiites et les sunnites. Mais enfin, ce qu'il rapporte est de toute façon remarquable. Et ce sont des reportages qui n'ont pas vieilli. Ils sont de leur temps, mais ils n'ont pas vieilli.
Alors bon, c'est un immense voyageur, hein, on vous l'avait déjà dit. Il faudrait plutôt faire la liste des endroits où il n'a pas été que la liste des endroits où il a été. C'est extraordinaire. Hein. Alors ça, c'est pas seulement la carte de l'empire colonial français. Hein, pas seulement, vous venez de le dire, l'Inde en particulier. Au fond, je me demande s'il ne joue pas auprès des Français pour leur ouvrir le monde à cette époque, à la fin du 19e siècle. Le rôle, je sais pas, qu'un Kipling joue pour les Anglais, par exemple.
Oui, enfin, Loti est moins colonialiste que Kipling.
Oui, mais enfin, je veux dire, regard sur le monde, c'est...
Pour Loti, il y a souvent un contresens, parce que justement, c'est un écrivain dont les romans, certains romans se passent dans le monde colonial, et on en a fait un romancier colonialiste, ce qu'il n'est pas. Si vous lisez, je ne sais pas, sa préface à Un pèlerin d'Angkor, il va à Angkor en 1900, et il y a une préface qui est une lettre ouverte d'ailleurs au gouverneur de l'époque, Paul Doumer, plus tard président de la République assassinée, et il dit en gros à Doumer, je ne crois pas du tout à l'avenir de nos trop lointaines colonies. C'est très dit, quand il est très, très explicite, quand il est en Algérie, c'est pareil, il est outré qu'on transforme Alger, qu'on construise des avenues de Rivoli, alors que la Casbah, c'est très beau. Loti a une posture qui n'est pas du tout celle qu'on lui prête. Hein.
C'est un grand défenseur des Turcs. Oui. Il adore l'islam, hein. Il ne s'est jamais converti, mais on le sent quand même profondément inspiré par l'islam. Hein.
Il a une vision de l'islam qui est celle d'un islam, j'allais dire, de paix et d'apaisement, de liberté, de fraternité, qu'il a avant tout découvert à Alger et ensuite, surtout, bien sûr, à Constantinople. Donc un islam qui est souvent très, très ottoman. Mais Loti, c'est pas... J'allais dire, l'islam, avec le I majuscule, c'est la civilisation. Et Loti est plus dans la civilisation musulmane que dans la religion. mais il la connaît plutôt bien. Mais il adore fréquenter les mosquées, les proximités des mosquées, fumer le narguilé à Istanbul ou ailleurs. Il a l'impression, d'ailleurs, si vous lisez Aziadé, justement le premier roman, c'est largement un roman sur ça, cette sorte de vie libre et en plein air en Orient, cette sorte de, parce que ça le sort complètement. Au début de sa, quand il est jeune, de ce cocon familial protestant très rigoriste où il était un petit peu, qu'il trouvait un petit peu étouffant. Par la suite, il va avoir tendance à penser que l'islam est une religion qui est une religion de stabilité et surtout où les choses n'évoluent pas. Quand il traverse le Maroc, il a l'impression de voyager dans un temps passé comme ça immuable. Voilà, le temps s'est arrêté. Donc c'est une sorte de vision un petit peu particulière. Voilà, au Maroc, c'est un récit de voyage qu'il écrit en 1889, très très beau récit également sur le Maroc. C'est Lyoté qui disait, c'est le Maroc de Loti. Bon, sous-entendu, c'est pas le Maroc de la colonisation et de la présence française, mais justement, dans au Maroc, Loti dit au début, moi qui, par je ne sais quelle préexistence, ai toujours eu l'âme à moitié arabe. Voilà. Loti croit beaucoup à la préexistence. Il dit qu'il va y avoir des ancêtres. Bon. Donc, c'est très curieux aussi, ça, chez Loti. Mais Loti n'est pas donc du tout à renfermer dans une écriture coloniale ou colonialiste. Il est justement dans son regard sur le monde, pour revenir à ce qu'il rapporte aux autres. Il décrit le monde. Quand il est jeune, les premiers reportages qu'il écrit, avant même d'être Pierre Loti, par exemple sur l'île de Pâques, sont des textes magnifiques sur l'île de Pâques. Les premiers textes qu'il écrit sur la Patagonie sont des textes magnifiques. Il faut rappeler aussi qu'au début, il commence par envoyer des dessins. Il a d'abord, avant d'écrire par son journal intime et ses lettres, Loti dessine, enfin Julien Viau. Et les premiers droits d'auteur qu'il a touchés, c'est en envoyant des dessins à la presse. Il avait vu qu'il y avait 2-3 marins de son âge qui envoyaient des dessins qu'il trouvait un peu nuls. Il s'est dit, je dois pouvoir faire mieux. Et je dois pouvoir gagner des sous, puisque sa famille était plutôt mal en point sur le plan financier. Et donc, il envoie des dessins à la presse qui sont retenus, qui sont gravés, parce qu'on ne savait pas imprimer le dessin, et qui lui rapportent ses premiers droits d'auteur. Mais c'est pareil, les dessins sur l'île de Pâques, à Tahiti, en Patagonie, tout ça, sont absolument étonnants. Alors, à bout d'un moment, les journaux lui ont dit, bon, c'est bien gentil, mon petit bonhomme, il faudrait mettre un texte avec, plutôt seulement qu'un titre ou 3 lignes. Et il se met à développer du récit de voyage. Voilà. Et là, petit à petit, il devient écrivain vraiment à part entière. Mais je disais tout à l'heure, il y a 7-8 romans, si on compte bien, on pourrait aller jusqu'à 9, mais essentiellement, c'est du récit de voyage. Loti est un témoin du monde, à part pour les régions où il n'est pas allé. Il y en a quand même quelques-unes. Je regrette qu'il n'ait pas pu aller à Petra, qu'il ne soit pas allé à Moscou, qu'il ne soit pas allé en Afghanistan. Il avait demandé l'autorisation pour s'y rendre. On ne sait pas pourquoi il n'est pas allé à Kaboul. Il n'est pas allé en Australie. Il n'est pas allé en Afrique du Sud.
Contrairement à Kessel, qui lui était.
Voilà. Donc, il nous manque. Moi, en tout cas, égoïstement, il me manque quelques destinations où j'aurais bien voulu qu'il y aille. Mais non, il a quand même beaucoup, beaucoup circulé dans toute l'Afrique de l'Ouest, etc. L'Afrique du Nord, bien sûr. L'Amérique du Sud, par la côte, parce que ça reste un marin. Donc, beaucoup de ces sont des escales.
Il a caboté dans le monde.
Il y a du cabotage et du cabotinage aussi, parfois.
Et du cabotinage. Alors, il y a aussi... Le deuxième volume de son journal intime s'appelle Soldat bleu. Alors là, c'est vraiment centré sur la guerre de 14-18 en France. Hein. Donc là, Loti est déjà un peu plus âgé, très connu, oui, bien sûr. Et puis donc, il va aller au front où il va rester à l'arrière, mais il va commenter la guerre avec beaucoup de sagacité quand même. Hein. Il voit les choses. En même temps, bon, il est nationaliste forcément dans une ambiance très particulière où l'allemand est vraiment l'envahisseur. Hein. Donc il va montrer vraiment les horreurs de la guerre comme dans un reportage qu'il aurait pu faire à l'étranger. Hein.
Alors, ce qui fait effectivement, alors dans le premier volume, là, cette éternelle nostalgie, c'est un choix de passage dans le journal intime, parce qu'on en a publié l'intégrale par ailleurs, mais il y a 5000 pages aux éditions des Indes Savantes, déjà des gros pavés. Mais dans Soldat bleu, c'est l'intégrale de la période 14-18. Là, on a vraiment tout le journal qu'il a tenu pendant la Grande Guerre, plus, vous le disiez tout à l'heure, des extraits d'articles qu'il écrit à ce moment-là dans l'illustration, dans d'autres journaux. Et tout cela forme un témoignage tout à fait intéressant. Alors, c'est plus un jeune homme, évidemment. En 1914, il a 64 ans. Il était à la retraite, bien sûr, et il demande à servir. Il n'était pas tenu pour rester au soleil au Pays Basque et personne ne lui aurait rien demandé. Mais lui, il se dit qu'il n'est pas possible d'imaginer que Pierre Loti, qui est tout de même aussi Julien Viau, officier de marine, ne n'aille pas au front.
Il fait un peu comme Saint-Exupéry, là, qui veut retourner à la guerre.
Il y a un sentiment du devoir. Loti est tout de même un militaire. nationaliste selon les moments. En tout cas, autant il n'aime pas les guerres de conquête, autant il pense qu'une guerre de défense,
c'est une guerre légitime,
et donc il doit y participer. Et donc, s'il ne peut pas y participer, parce qu'il a 64 ans, que c'est un vieux monsieur, à cette époque-là, il se dit qu'il peut y participer par la plume, hein, si ce n'est pas par l'épée. Et donc, il a un rôle à jouer. Et alors, il lui a fallu convaincre la hiérarchie, parce que justement, c'est Pétain qui disait « mais on n'a pas besoin de marins dans les tranchées », ce qui d'ailleurs factuellement était vrai. Mais Loti dira « Pétain, il a le mauvais œil, cet homme-là, il faut vous en méfier ».
Un homme de sa génération, d'ailleurs.
Ah bah oui, enfin un peu plus vieux. Et lorsqu'il va sur le front, donc il finit par obtenir la possibilité d'être réintégré et d'être en mission avec Gallieni, avec quelques autres, Franchet d'Espéré, etc. Effectivement, il va bien sûr être dans une œuvre de propagande, hein, de tricolore, mais sauf que, justement, si ça n'était qu'une littérature triomphaliste de guerre de cette sorte, bon, il y en a eu beaucoup, mais c'est du Loti. Et Loti, il écrit très bien. Et quand il décrit, je ne sais pas, la bataille de la Somme, bah, c'est magnifique. Lorsqu'il décrit la cathédrale de Reims qui a été bombardée, c'est magnifique.
J'ai lu les pages où il rentre dans Noyon, qui a été complètement écrasé par l'armée allemande. Donc c'est terrible.
Bah, là, il est dans le grand reportage. Et sa plume, évidemment, n'est pas celle seulement donc, qu'on attendait de lui, d'ailleurs, parce qu'on a envoyé Loti en disant, bon, il va nous faire quand même, il faut remonter le moral des Français. Et donc, non, il fait quand même, voilà, il fait pas que du Julien Viau, il fait du Loti. Et donc, il y a des textes de guerre tout à fait remarquables. Et puis, c'est vrai que comme lui, il est obsédé par la mort, cette idée, cette destruction, pour des causes, certes, qui sont défensives et donc légitimes du point de vue français, mais c'est une catastrophe d'imaginer... Voilà, c'est civilisation, vous êtes mortel, là, c'est, on est dedans. Et donc, Loti, il avait écrit un peu avant, en 1911, un texte où il disait « honte à la guerre moderne ». Voilà. Il a le sentiment que ces guerres modernes, comme il dit, vont être, sans penser encore guerre mondiale, et vont être particulièrement terribles pour l'humanité en général. Donc, ce n'est pas du tout un va-t-en-guerre. Les horreurs de la guerre et la technologie de la guerre l'inquiète énormément, mais il s'est tenu à ce qui lui semblait tout de même son devoir de soldat, d'apporter en tout cas sa présence sur le front. Oui.
Je vous pose une dernière question avant de vous donner la parole. C'est de savoir, c'est la lecture de ces lettres, la lecture intensive de ces lettres et de ces journaux intimes. Finalement, est-ce qu'au fur et à mesure, vous avez de plus en plus précisé votre vision de Loti? Est-ce qu'il y a des aspects finalement qui ont pu vous surprendre parfois dans des textes un peu inédits qui sont arrivés tard? Et est-ce que ça vous a amené à préciser ou à remettre en question certains aspects de sa psychologie? De sa vision du monde, de ses relations.
Oui. Heureusement. On peut poser la question autrement. On me dit des fois, t'en as pas marre de Loti. Justement, non.
C'est pas ça que j'ai dit.
Oui, mais j'ai traduit autrement, en plus court. C'est-à-dire, effectivement, non, parce que sans cesse, on découvre des choses nouvelles.
Par exemple.
Autant, si vous voulez, bon. Pardon. Autant il y a une quarantaine d'années, comme historien et faisant des thèses, etc., j'avais un peu perçu déjà justement le côté anticolonialiste, l'originalité de Loti comme écrivain engagé, etc., des choses qu'on n'avait pas beaucoup abordées. Et autant donc tout cela, on l'a fouillé, on l'a développé, on l'a montré. Mais pour ce qui est de la personnalité, de la complexité de Loti, justement, on était encore dans les... D'abord, Loti avait beaucoup été abordé d'un point de vue strictement littéraire, par de la critique littéraire, souvent tout à fait brillante sur le style, sur le genre du roman, etc. Bon,
sauf que c'est pas un romancier.
Alors, sur la question du roman, c'est clair. Mais et d'ailleurs, les romans font un peu... C'est l'arbre qui cache la forêt, parce que justement, il y a beaucoup d'écrits sur lesquels qu'on n'allait pas voir. Et entre autres, on ne connaissait pas l'intégralité du journal intime. Entre autres, on n'avait pas accès à toutes ces lettres que nous publions maintenant. Et je pense que ça nous donne à voir... Si vous voulez, alors pour caricaturer, mais il y a encore 40 ou 50 ans, on était que dans l'Loti tel qu'il s'était mis en scène avec sa maison et avec son œuvre, et que depuis, plus ça va, évidemment, plus on entre, plus on se rapproche de Julien Viau, si vous voulez, plus on quitte Pierre pour aller vers Julien, plus on a l'intimité d'un personnage complexe. Le côté, justement, marin d'opérette et séducteur, grand aventurier, tout ça, déguisé et autres, aujourd'hui, on comprend bien qu'on a affaire à un personnage complexe, angoissé, post-romantique, avec des questionnements qui sont moderne qui nous parle aujourd'hui. Parce que dans les années 50 encore, par exemple, c'était bien après sa mort, où il avait un peu disparu, mais c'était l'écrivain du 19e siècle. Hein, c'était l'écrivain avec une écriture démodée, datée, etc. C'était l'image qu'on avait de lui, même si on le respectait, si on le lisait encore. Aujourd'hui, on a de plus en plus conscience qu'on a affaire justement à un écrivain d'aujourd'hui, avec les marqueurs de son temps, bien entendu. Il ne faut pas se tromper sur ça. Mais, et donc, on ne cesse de découvrir des éléments de sa personnalité. Sa maison à Rochefort, lorsqu'elle a ouvert au public dans les années 70, ça a été découvert, enfin visité comme un lieu kitsch, comme une sorte de bazar oriental un peu bordélique. On se disait, mais c'est quoi cet amas de choses? Il y a des articles à l'époque, je pourrais vous en sortir, c'est d'incompréhension totale, hein, en se disant, voilà, ce personnage...
Précisément le moment où vous commencez à vous intéresser à Loti, un jeune. Hein.
C'est vrai. Et alors qu'aujourd'hui, et vous le verrez quand elle va rouvrir cette maison, non seulement c'est une grande œuvre architecturale, c'est une grande œuvre esthétique, c'est pensé, hein, et ça reste... mystérieux, parce que justement, c'est pas seulement de... Que fait Loti en construisant une maison comme ça? D'abord, il détruit pas la maison des origines, la maison familiale, il y a tout le passé qui est encore là, il y a des choses auxquelles il ne touche pas, mais il achète des maisons voisines, et là-dedans, il va mettre une mosquée, une salle Renaissance. Il construit ses fameuses identités, il rapporte un peu des bouts du monde, parce que c'est aussi ça, la démarche. C'est un rêvoir. Hein, la maison. C'est-à-dire que voilà, je suis dans le salon arabe, je peux devenir quand même pendant quelques heures, en fumant un peu, me retrouver au Maroc ou ailleurs. Lorsqu'il organise des grandes fêtes qui sont somptueuses, qui font la une de la presse nationale, que ce soit la fête gothique, la fête chinoise. La fête chinoise, il y a 300 invités dans la maison, c'est absolument époustouflant, ça coûte une fortune. L'outil a gagné beaucoup d'argent. Il en a dépensé aussi beaucoup. Et donc, tout cela, c'est pas seulement... Justement, ça a été perçu comme le faste d'un écrivain nanti et qui s'amusait à des choses frivoles.
Ça fait penser un peu d'ailleurs à Edmond Rostand et sa maison du Pays Basque. Hein.
Oui, mais d'ailleurs, ils ont été amis. Mais sauf que Rostand n'a pas eu le temps d'en profiter beaucoup, il est mort trop tôt. Mais ceci dit, Rostand, ce qu'il installe, et la Arnaga, c'est très beau, mais il est dans le décorum un peu... Alors, il y a la maison basque démesurée, mais un parc un peu à la française. Et ça, c'est... Alors, Loti l'aurait peut-être un peu rejoint sur le côté comme ça, monarque. En son palais, mais Loti, il est beaucoup plus justement multiple que ça. D'ailleurs, c'est pas une maison d'écrivain, la maison de Loti. Il a un petit bureau minable et il travaille là où il peut.
C'est une sorte de mausolée de ses voyages, un peu, non?
Alors, mausolée, on l'a parfois dit parce que c'est très sombre et c'est toujours un peu funèbre chez Loti. Il y a des tombes, il y a des stèles, il y a des choses comme ça un petit peu bizarres. C'est un lieu de vie parce qu'il y a des fêtes. C'est un lieu de vie quotidienne, bien évidemment. Mais c'est un... Ben, je dirais, la maison, c'est un bout de journal intime, si vous voulez. Sacha Guitry disait, c'est un livre de lui. Voilà. Et donc, ce qu'il n'a pas complètement pu mettre dans ses romans, dans ses récits de voyage, dans son journal intime, il l'a mis un peu dans la pierre aussi. Donc, c'est une œuvre à part entière. Et donc, aujourd'hui, je pense qu'on prend au sérieux ça. Et la maison, ben voilà, quelque chose qu'on va continuer de découvrir quand elle va rouvrir, que d'ailleurs ceux qui ont travaillé sur sa restauration n'ont pas cessé de découvrir des choses qu'on ne connaissait pas. Voilà, le chantier, il continue, pour moi et pour d'autres après moi, amplement.